Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Je vous lis un extrait vers 16h30. Hein. Je vous lis un extrait d'une prière que le pape Paul VI avait composée pour la clôture de l'année de la foi entre 1967 et 1968. Il avait initié l'année de la foi. Et à l'occasion, il avait composé une prière dont je vous lis un extrait. « Ô Seigneur, fais que ma foi soit entière, sans réserve, et qu'elle pénètre dans ma pensée, dans ma façon de juger les choses divines et les choses humaines. Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre, qu'elle ait le concours personnel de mon adhésion, accepte les renoncements et les devoirs qu'elle comporte et qu'elle exprime le meilleur de ma personnalité. Je crois en toi, Seigneur. Ô Seigneur, fais que ma foi soit forte, qu'elle ne craigne pas les contrariétés, des problèmes dont est remplie l'expérience de notre vie, avide de lumière, qu'elle ne craigne pas l'adversité de ceux qui la disputent, l'attaquent, la refusent, la nient, mais qu'elle se renforce de la preuve de ta vérité, qu'elle résiste à l'usure des critiques, qu'elle se renforce continuellement en surmontant les difficultés dialectiques et spirituelles dans lesquelles se déroule notre existence temporelle. Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse et qu'elle donne paix et allégresse à mon esprit, le rende capable de prier avec Dieu et de converser avec les hommes, de telle manière que transparaisse dans le langage sacré et profane la béatitude intérieure de son heureuse possession. Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble et qu'elle ne croit pas se fonder sur l'expérience de mon esprit et de mon sentiment, mais qu'elle rende témoignage à l'Esprit Saint et qu'elle n'ait d'autre garantie que dans la docilité à la tradition et à l'autorité du magistère de la Sainte Église. Amen. Cette année de la foi, donc entre 67 et 68, quelques années après le Concile, avait donné l'occasion au pape Paul VI, toutes les audiences du mercredi, de faire tout un enseignement continu sur la foi et les points de la foi. Et ça a été regroupé dans des recueils qu'on peut trouver d'occasion. Et Paul VI était très facile à lire. Donc si vous tombez sur des recueils d'audiences du mercredi ou d'homélie de Paul VI, voilà, ça peut être une lecture intéressante. Lors de notre premier entretien, on avait parlé de l'acte de foi, qu'est-ce que croire. Et aujourd'hui, on va essayer d'examiner comment la foi se transmet. Et peut-être vous allez être déçus parce qu'on peut en parler à deux niveaux. Comment le Christ qui veut nous transmettre la vérité révélée, par quels moyens s'y est-il pris pour qu'elle nous parvienne aujourd'hui? Donc c'est un niveau très général. Et peut-être que vous auriez attendu que je parle plus concrètement de la transmission de la foi, par exemple en famille. Comment vous, parents ou grands-parents, vous pouvez transmettre la foi à vos enfants ou à vos petits-enfants? Et je ne vais pas parler de ce deuxième niveau, parce que dans la continuité du premier entretien et dans le cadre de ces entretiens de cette année, je pense qu'il était plus logique de parler du premier niveau. Donc aujourd'hui, comment ce que le Christ a dit il y a 2000 ans, ce qu'il a donné il y a 2000 ans, peut nous parvenir aujourd'hui sans qu'il y ait déperdition? Comment peut-on être sûr aujourd'hui, en entendant l'Église, d'entendre le Christ? Comment peut-on être sûr aujourd'hui en recevant ce que l'Église nous donne, que nous recevons bien ce que le Christ lui-même a donné il y a 2000 ans? Et puis nous dirons un mot sur le contenu, non pas article par article du credo, mais comment se sont un peu formées les professions de foi. Pour une transmission, il faut un émetteur. Et l'étude de cet émetteur fera l'objet de notre première partie. Le Père a envoyé le Fils qui a donc dit et fait des choses, mais qui est remonté au ciel. avant de remonter au ciel, il a mis en place l'Église. Donc aujourd'hui, l'Église, c'est l'émetteur. Il y a un message que l'Église transmet, c'est le credo, donc le contenu. Et puis, il faut un récepteur, parce qu'il ne sert à rien de parler si personne n'écoute, et le récepteur, c'est l'humanité tout entière. Donc, comment cette humanité est disposée à recevoir, à écouter le message transmis par l'Église de la part du Christ? Je commence par une petite précision que j'aurais peut-être dû faire la fois précédente, c'est définir ce qu'est une vertu théologale. C'est bête, mais il y a trois vertus théologales. J'ai parlé de la première au premier entretien sans définir ce que voulait dire théologale. Théologale, ça vient de deux mots grecs. Théos, c'est Dieu, et logos, c'est la parole. Donc une parole sur Dieu ou une parole de Dieu. Une vertu théologale, c'est une vertu qui a son origine en Dieu. C'est un don de Dieu surnaturel pour que l'homme puisse être capable de vivre une réalité qu'il n'est pas capable de vivre par sa seule force. Et donc on a vu la dernière fois qu'une vertu, la vertu théologale de foi, c'était par une lumière particulière, celle de Dieu qui se révèle, Dieu fait accéder notre raison à un niveau supérieur de connaissance auquel il n'accéderait pas par sa seule raison. Donc, Dieu se révèle, et l'objet de la foi, une vertu théologale, c'est à ça, Dieu pour origine et Dieu pour terme. Donc, le but de la foi, c'est de nous unir à Dieu. Et ce sera la même chose pour chacune des trois vertus théologales. Elles viennent de Dieu, elles touchent l'homme, elles enveloppent l'homme pour que l'homme retourne à Dieu. Je ne vais pas vous lire la définition qu'en donne UCAT. Vous savez, UCAT, c'est ce petit catéchisme question-réponse que Benoît XVI avait largement diffusé auprès des jeunes. C'était intéressant de voir qu'il était revenu au mode de question-réponse pour structurer notre pensée. Et je ne vous lis pas non plus ce que le catéchisme de l'Église catholique dit d'une vertu, des vertus théologales, parce que ça recoupe ce que je viens de vous dire. C'est le paragraphe 1813 du catéchisme de l'Église catholique. Grand homme de notre entretien d'aujourd'hui, allez de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19, 20. C'est ce qu'on appelle la finale de saint Matthieu. Le dernier verset de saint Matthieu étant « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des âges. » Et puis Jésus monte au ciel. Donc il a bien l'intention de laisser poursuivre son œuvre par d'autres que lui. Aller de toutes les nations faites des disciples. Et on a là les trois éléments qui constituent la mission de l'Église. Parler de Jésus, faites des disciples, les faire vivre de la vie même de Dieu, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême ouvre aux autres sacrements. Et être disciple de Jésus entraîne une certaine façon de vivre. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ça touche l'homme dans sa totalité et tous les hommes. Et donc, aussitôt Jésus monte au ciel, c'est-à-dire que son œuvre va se poursuivre alors que physiquement il n'est plus là. Et dans ce grand un, je voudrais faire un premièrement sur la personne du Christ. Parce que avant de s'engager sur le contenu, je voudrais savoir si celui qui nous a transmis, qui nous a donné ce contenu, est lui-même crédible. Donc, premièrement, la personne du Christ. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils. Galates 4, 4. Dans l'Épître aux Hébreux, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils. Hébreux 1, 2. Et ce Fils, c'est le Verbe. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus se définit lui-même comme celui qui est la vérité, le chemin et la vie. Et il me semble donc important, comme garantie de notre propre foi, de dire maintenant quelques mots sur ce Fils qui nous parle du Père. Petit a, il est vraiment Fils de Dieu. Alors, en un certain sens, tout le monde est Fils de Dieu. Donc, quand Jésus dit « Je suis Fils de Dieu », ça ne pose aucun problème. Sauf que quand Jésus le dit, il le dit, lui, d'une façon spéciale, où il va se rendre égal au Père. Et c'est ça qui va poser un problème. Comment fait-il pour nous dire qu'il est vraiment Fils de Dieu ? Il va reprendre la méthode de Dieu dans l'Ancien Testament, qui, à Moïse, devant Moïse, le buisson ardent, Dieu se définit, vous savez, Dieu dit à Moïse, je t'envoie auprès de Pharaon et auprès des Hébreux. Et Moïse demande, mais ils vont me demander, tu es envoyé, mais tu es envoyé par qui ? Qu'est-ce que je vais leur répondre ? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui a l'être, celui qui n'a pas de commencement, pas de fin, qui a toujours existé. Donc l'identité de Dieu, c'est « je suis ». Et tout l'Ancien Testament, on sait très bien que Dieu est « je suis ». Et Jésus, pour dire qu'il est le Fils de Dieu d'une façon unique, va prendre la même méthode, il reprend à son compte ce « je suis ». Par exemple, au chapitre 8 de Saint Jean, il y a un grand dialogue avec les Juifs. Les Juifs demandent, « Tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ?» Jésus répondit, « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il fut dans la joie. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. » Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se déroba et sortit du temple. Voilà, l'allusion est tellement évidente que Jésus blasphème, et donc on veut le lapider. Un peu auparavant, dans le même chapitre 8 de Saint Jean, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. » Donc, par la façon dont il parle de lui-même, il se rend égal de Dieu. Par ailleurs, il se met aussi sur un pied d'égalité avec Dieu. « Mon Père et moi, nous sommes un. » Je suis sorti du Père. Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Donc, il n'y a pas de décalage entre le Père et moi. Il y a deux personnes différentes, mais qui voit l'un a accès à l'autre. Père, je suis sorti d'auprès de toi. Non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Troisième façon que Jésus a de se faire l'égal de Dieu, c'est en s'attribuant à lui des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. On descend le paralytique pour qu'il soit guéri physiquement. Je te le dis, tes péchés sont pardonnés. Scandale. Comment cet homme-là peut-il pardonner les péchés ? Dieu seul peut pardonner les péchés. Vous avez raison, il n'y a que Dieu. Et bien moi je te le dis, voilà, je te pardonne tes péchés parce que je suis Dieu. Pourquoi dire ça ? Parce que, effectivement, certains vont dire, et ce sera l'un des motifs de condamnation, Jésus blasphème, et d'autres enregistrent petit à petit ce fait que Jésus s'identifie à Dieu. qu'il prétend avoir la même substance, dit le credo, que le Père. Il est autant Dieu que le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Petit b, cette identification divine explique son autorité reconnue. Voilà, Jésus a beaucoup parlé, il a fait des gestes, et il veut par là peu à peu convaincre son entourage et ses disciples en premier lieu qu'il est le Fils unique engendré du Père et que c'est à ce titre-là qu'il parle. Et qu'il a autorité à le faire précisément parce que le Père l'a envoyé pour cela. Cette consubstantialité avec le Père lui donne une autorité à parler et à agir au nom de Dieu. Il est le légitime porte-parole du Père. Et il dit dans l'Évangile, « Je dis ce que le Père m'a enseigné. Donc je n'invente rien de moi-même, tout ce que j'ai vu faire par le Père, je vous le dis. » C'est vraiment le fidèle qui transmet ce qu'il entend et ce qu'il voit faire par le Père. Donc, il y a une garantie pour nous, en écoutant Jésus, qu'on entend bien le Père. Il est dit plusieurs fois dans l'Évangile que Jésus parle avec autorité, il commande avec autorité et puissance, on reconnaît sa compétence, il peut parler parce qu'il sait de quoi il parle, il connaît Dieu. Il sait comment en parler parce qu'il est pédagogue. Son autorité lui vient aussi du fait qu'il est cohérent parce qu'il dit tout ce qu'il fait. Même chez le plus grand saint, vous avez toujours un décalage entre ce que je dis et ma façon de vivre. Et ce décalage, c'est ma marge de conversion, mon appel à me convertir. Chez Jésus, il n'y a pas de décalage entre sa façon de vivre et sa parole. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et donc, ça rend d'autant plus sa parole forte qu'effectivement, il ne parle pas en l'air. Les foules étaient frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Pourtant, les scribes, qui sont ceux qui sont compétents au niveau de la science, puisqu'ils ont étudié l'écriture, et j'allais dire qu'ils sont payés pour enseigner. Eh bien, quand on compare un scribe et Jésus, on dit de Jésus qui parle en homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Et il va y avoir un événement majeur, évidemment, dans la vie de Jésus, qui assoit définitivement son autorité, c'est sa résurrection. Jésus fait des tas de promesses, et en particulier des promesses qui concernent la vie éternelle. On en parlera quand on parlera d'espérance. C'est facile de faire des promesses. Tout le monde peut faire des promesses en période électorale, tout le monde fait des promesses, et on a quelques années après pour se dire « Ah, elles n'ont pas été tenues, pas toutes en tout cas. Bon. » Jésus promet, il annonce qu'il va monter à Jérusalem pour y vivre sa passion. Et tout le monde a été témoin de la violence de cette passion. On l'a accompagné à travers les rues de Jérusalem, encore quelques-uns sur le pied du calvaire, et on voit comment il est mort. Et il annonce, 3 jours après, je ressusciterai. Mais une fois qu'il est mort, après tout, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, n'a plus grande importance. Ça ne peut plus se vérifier, justement sur la mort. Et voilà que 3 jours après, de fait, ce que personne n'avait fait avant lui, il est plus fort que la mort, il sort vivant du tombeau. Donc cette parole inimaginable, impensable, voilà une promesse que Jésus a tenue. Et s'il tient celle-là, alors tout le reste s'ensuit, et on peut penser qu'il sera fidèle à tenir toutes les autres promesses, et puisqu'il est plus fort que la mort, il peut légitimement, par exemple, nous promettre la vie éternelle. Donc la résurrection de Jésus est le point central. Le Christ, quand c'était son heure, quand lui a voulu, a donné sa vie, et le Père l'a ressuscité, cautionnant tout ce que Jésus a dit dans son ministère public. Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés, Alors aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si nous qui sommes dans le Christ n'avons d'espoir que cette vie, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Voilà. Le point central, non seulement par son contenu, mais par sa garantie de notre foi, c'est la résurrection de Jésus. Le pape François, dans son encyclique sur la foi, maintenant, à la lumière de la résurrection, de sa résurrection, la mort du Christ dévoile la fiabilité totale de l'amour de Dieu. En tant que ressuscité, le Christ est témoin fiable, digne de foi, appui solide pour notre foi. Si l'amour du Père n'avait pas fait ressusciter Jésus d'entre les morts, s'il n'avait pas pu redonner vie à son corps, alors il ne serait pas un amour pleinement fiable, capable d'illuminer également les ténèbres de la mort. Petit c, Jésus a autorité, il parle, il se révèle, il nous parle du Père, et pourtant, en certaines circonstances, il ne veut pas que cela se sache. Et cela peut nous paraître très mystérieux, qu'il dise, alors qu'il vient de faire un miracle, ne le dit à personne, alors que Pierre vient de dire « Tu es le Christ », Jésus dit à Pierre « Ne le dis à personne ». Pourquoi ? Parce que précisément, il veut être révélé sur ce qu'il est réellement. Et le Christ est tellement grand qu'on ne peut pas le saisir en quelques minutes. Je ne peux pas prétendre connaître le Christ parce que je suis un de ses disciples qui marche avec lui depuis quelques semaines. Il faut que j'emmagasine, que je garde dans mon cœur et dans ma mémoire, et que j'ai le message complet de Jésus pour pouvoir ensuite en parler. Parce que si je ne dis de Jésus que ce que je viens d'en comprendre, ce sera partiel et ça n'est pas Jésus. Si je dis que l'opinion que j'ai eue, que l'expérience que je viens de faire, ce sera partiel et ça n'est pas Jésus. Par exemple, on a eu il y a quelques semaines, en deux dimanches de suite, on a eu Jésus qui guérit un muet, donc il lui rend la parole, et dès qu'il lui a rendu la parole, je t'interdis de le dire. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que va dire le muet ? Il va dire, Jésus a fait un miracle, ce qui est vrai. Et donc on attend de Jésus, on va identifier Jésus au thaumaturge, celui qui fait des miracles. Et si pour moi il ne fait aucun miracle, ça veut dire que Jésus n'a pas de raison d'intervenir dans ma vie et que je n'ai pas de raison de m'intéresser à lui. Bien sûr qu'il fait des miracles, mais ça n'est pas qu'un thaumaturge, ça le réduit considérablement. Le dimanche d'après, qu'est-ce que les gens disent ? Alors on a toutes les opinions, ils disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es un prophète, que tu es... Ils se réfèrent à des gens du passé, à ce qu'ils connaissent. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Pierre prend la parole, tu es le Christ. Très bien, je t'interdis de le dire aux autres. Pourquoi ça ? Parce qu'il ne suffit pas de dire tu es le Christ, tu es l'envoyé du Père, si je ne sais pas pourquoi il est envoyé. Et Jésus va dire le paragraphe suivant pourquoi il est envoyé. Je suis là, je monte à Jérusalem pour y souffrir, y mourir et ressusciter. Et je meurs pour sauver les hommes. Et je ne les sauve pas d'un claquement de doigts, je les sauve en donnant ma vie. Autrement dit, si vous voulez m'identifier à un personnage que vous connaissez dans l'Ancien Testament, il faut m'identifier au serviteur souffrant. Et on sait la réaction de Pierre qui a dit « Tu es le Christ ?»« Ah non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc Pierre est incapable à ce moment-là de confesser la foi parce qu'il ne veut de Jésus qu'une partie. La partie glorieuse, lumineuse. « Tu es l'envoyé du Père. » Oui, mais l'envoyé du Père, il doit souffrir et mourir à Jérusalem. Ah non, ça j'en veux pas. Alors tu ne peux pas parler en mon nom, c'est pas toi qui décides de mon identité, c'est moi qui me révèle pleinement ce que je suis, et pour parler de moi, vous devez avoir vous-même reçu ce que je suis. Petit dé, avec le Christ, la révélation est close. C'est important de dire ça, parce qu'en Jésus, le Père a tout dit. Jésus n'est pas remonté au ciel en oubliant une partie du message. Et donc, nous n'avons pas à attendre autre chose que ce qui est déjà dit dans l'Évangile. Je dis ça parce que quelquefois, on court après des révélations nouvelles. La révélation, elle est close. Il n'y aura rien de neuf que ce qui a été dit dans l'Évangile. Je vais vous lire un paragraphe de Saint Jean de la Croix là-dessus. Le Christ est l'ultime parole du Père. Mais ça veut dire aussi, j'ouvre une petite parenthèse, que quand quelques siècles après, l'islam prétend poursuivre la révélation de Dieu. Ça n'est pas possible. Si Dieu a tout dit en Jésus, il n'a pas besoin, quelques siècles après, d'envoyer un autre prophète pour dire, pour compléter le message ou pour dire le contraire de ce qu'il a déjà dit avant. Autrement dit, et je le dis ça avec beaucoup de respect, bien sûr que l'islam est une religion tout à fait respectable, mais qui, à nos yeux, ne peut pas prétendre à être une révélation divine. Puisque Dieu a tout dit en son Fils, il ne va pas rajouter une autre révélation bis ou un deuxième chapitre à la révélation. Si on pense que tout est dit dans Jésus, il n'y a plus rien à rajouter. Je vous lis un passage de Saint Jean de la Croix. En nous donnant son Fils ainsi qu'il l'a fait, lui qui est sa parole dernière et définitive, Dieu nous a tout dit ensemble et en une fois. Il n'y a plus rien à dire. C'est la doctrine de saint Paul aux Hébreux quand il les engage à renoncer aux pratiques primitives, au rapport avec Dieu selon la loi de Moïse, les exhortant à fixer uniquement les yeux sur le seul Christ. L'apôtre nous apprend ainsi que Dieu est devenu en quelque sorte muet. Il n'a plus rien à nous dire puisque ce qu'il disait jadis en déclaration séparée par les prophètes, il l'a dit maintenant de façon complète en nous donnant le tout dans le Fils. Concluez-en que désirer sous la loi nouvelle, vision ou révélation, ce n'est pas seulement faire une sottise, c'est offenser Dieu, puisque par là nos yeux ne sont pas uniquement fixés sur le Christ, sans chercher chose nouvelle. Dieu en effet pourrait répondre, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, par la parole qui est mon Fils, fixez les yeux sur lui seul, car en lui j'ai tout établi, en lui j'ai tout dit, tout révélé, et vous trouverez là bien plus que tout ce que vous désirez et demandez. Et le texte continue. Deuxièmement, du grand 1, le mystère de l'Église. Donc tout est dit par Jésus-Christ, mais tout le monde n'a pas entendu. Et c'est un message qui concerne tout le monde. Comment faire alors qu'il est remonté au ciel pour que tout le monde, dans le temps et dans l'espace, puisse prendre connaissance de ce message qui est un message de salut? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes aimés et sauvés par Dieu. Donc ça touche l'existence de chacun. Donc il est important que chacun le sache. Cet acte historiquement qu'on peut dater en l'an 33 d'une croix plantée sur le calvaire, alors des croix il y en a eu en permanence, d'ailleurs ce jour-là il y en a trois. Ce qui est intéressant, c'est celui qui est sur la croix, le Fils de Dieu. Comment cet acte-là peut rejoindre Adam et Ève et le dernier qui sera conçu? Le credo nous dit, il est descendu aux enfers, c'est les enfers au pluriel. C'est-à-dire, si vous voulez, un peu cette salle d'attente où attendaient les gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas accès au ciel puisque le ciel était fermé, la porte du ciel était fermée. Donc leurs âmes attendent. Jésus est descendu aux enfers. C'est-à-dire qu'il est mort comme tout le monde, séparation de son corps et de son corps est mis au tombeau et son âme descend aux enfers où elle visite l'âme de ceux qui attendent. Et vous prenez la lecture qui est proposée le samedi saint, où l'auteur d'une belle homélie du samedi saint, il imagine que l'âme de Jésus va à la rencontre de tous ceux qui attendent. Donc il y a un petit mot pour Adam, pour tous, c'est un très très beau texte. Et il leur dit, voilà, la porte du ciel va être rouverte, quand je serai remonté, moi le premier, vous aurez accès au ciel. Donc il a rejoint tous ceux qui attendaient depuis Adam et Ève. Et pour toucher les autres, eh bien, c'est l'œuvre de l'Église. Et Jésus institue l'Église qui fait d'avance partie de la volonté trinitaire que l'œuvre du Christ soit prolongée par l'Église. Petit a, une religion de médiation. Je vais aller assez vite parce que je crois que je vous en ai déjà parlé. Pour sauver, il veut sauver l'homme du péché et de la mort, et il veut vaincre le péché et la mort sur leur terrain. Le péché est un manque d'amour qui ne peut être vaincu que par un surcroît d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La mort, il faut la vaincre sur son terrain, donc il faut accepter de mourir, de descendre dans la mort pour en ressortir vivant. Or, Dieu ne peut pas mourir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut assumer une nature humaine semblable à la nôtre qui est devenue mortelle comme conséquence du péché originel. Et donc, réellement, il prend une nature semblable à la nôtre. Il est une personne divine qui assume notre nature humaine. Et donc, il a une volonté divine, une volonté humaine, une liberté divine, une liberté humaine. Sinon, il ne serait pas vraiment homme. On le voit, par exemple, dans son agonie. « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ça, c'est Jésus qui est tenté dans sa volonté humaine. Et qui aussitôt va dire « Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Et donc, il aligne sa volonté humaine sur la volonté divine. Donc, il assume une nature humaine semblable à la nôtre, un corps semblable au nôtre, et par là même, il devient, par sa nature humaine, il devient mortel. Et il peut être plongé dans la mort pour en ressortir et vaincre la mort. Non pas que ça nous empêche de mourir, mais pour faire en sorte que notre mort ne soit plus une impasse, mais un passage. Et en mourant par amour, il est plus fort que la multitude des péchés. Donc première médiation, c'est l'incarnation. Tout de suite lié à celle-là, c'est « puisque je veux un corps humain semblable aux autres, tout le monde a un corps grâce par une mère, il a besoin d'une femme. Dieu a besoin d'une femme qu'il s'est choisie, c'est la Vierge Marie, qui lui donne son corps, et qui le fait grandir en elle pendant 9 mois. » Je vais vite. Tout est sauvé, tout est dit par la parole de Jésus, et tout est sauvé par sa mort et sa résurrection. Et il a besoin d'une troisième médiation, celle de l'Église, pour que ce salut touche maintenant tous les hommes. D'où la phrase que je vous ai donnée, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et enseignez-leur. » L'Église, petit b, donc la médiation de l'Église. Et l'Église elle-même va passer par des médiations qui sont les sacrements, qui sont des ministres. Voilà, si vous voulez avoir accès aujourd'hui à un sacrement, il faut passer par un ministre qui est quelquefois l'évêque, souvent un prêtre, quelquefois un diacre, quelquefois des laïcs. Petit b, l'Église est un mystère. Il serait commode pour nous de pouvoir comparer l'Église à une institution, quelle qu'elle soit, qu'on connaisse, qu'on connaît déjà. Alors on pourrait comparer, et ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on peut comparer l'Église à aucune institution qu'on connaît. C'est pas un parti politique, c'est pas le club des supporters d'un club de foot, c'est rien de ce qu'on connaît. Parce que, à la différence de toutes les autres institutions, ce ne sont pas des hommes qui se rencontrent autour d'un point d'intérêt commun, c'est Dieu qui propose que des hommes se rassemblent autour de ce que lui propose. Et donc il rassemble des hommes autour de sa personne. Si vous êtes d'accord, celui qui veut être mon disciple, mais on n'est pas obligé. Et il confie à l'Église, donc d'institution divine, la force, la splendeur de sa parole de vérité et sa vie donnée une fois pour toutes par la croix et qui doit être distribuée maintenant à tous les hommes dans les sacrements. Saint Paul dit « Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Il parle du mariage, de l'amour de l'homme et de la femme, il termine « Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » L'Église, c'est l'épouse du Christ, qui se reçoit totalement de son époux. Et ce qu'elle reçoit, c'est la parole de Dieu, la parole de vérité et la vie de Dieu. Et donc, tout ce qui serait transformation de ce dépôt ne peut être qu'appauvrissement de ce dépôt. Ben, l'Église, elle ferait mieux d'être moderne, de s'adapter un peu, je vais en parler peut-être tout à l'heure, mais si elle cherche à être moderne, à s'adapter, à minimiser, il faut qu'elle puisse transmettre avec miséricorde la totalité de ce qu'elle a reçu, puisque ce qu'elle a reçu, c'est la parole de vérité et la vie même de Dieu. En permanence, le Christ soutient l'Église de sa prière. On a cette phrase pas très mystérieuse, au moment de la Passion, Jésus se tourne vers Pierre. « Seigneur, s'il en reste un, ce sera moi, tu peux compter sur moi. »« Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » C'est pas Pierre parmi les apôtres, c'est Pierre comme chef des apôtres. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et donc, en priant pour Pierre, le Christ prie pour toute l'Église. Il y a eu dans l'histoire de l'Église des papes qui ont eu des vies un peu, j'allais dire douteuses ou malheureusement pas douteuses dans leur comportement. Jamais un pape n'a été contre la foi. Voilà. Jésus prie pour que la foi de Pierre, la foi de l'Église ne défaille pas. Et avant qu'elle parte en mission, Jésus garantit à l'Église « Je vous enverrai l'Esprit Saint ». Il vous rendra plus intelligent sur ce que vous n'avez pas compris, il vous donnera la mémoire sur ce que vous n'avez pas retenu, il vous dira comment il faut le dire. Voilà. L'Église a cette double assistance de la prière du Christ, et encore au chapitre 17 de Saint Jean. Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais je te prie de les garder du mauvais. Et il prie pour chacun d'entre nous. Je ne te prie pas pour ceux qui sont là en ce moment autour de moi, je te prie pour tous ceux qui croiront en ce message qu'ils diront. Le soir du jeudi saint, Jésus a prié pour chacun d'entre nous. Donc on a cette double assistance de la prière de Jésus et de l'Esprit Saint qui assiste l'Église en permanence pour la rendre intelligente, l'éclairer, voilà. Petit c, une église sainte composée de pécheurs. Le Christ s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain du baptême, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Et donc, alors que le péché de notre péché salit l'Église et que notre péché est projeté au devant de la scène, que le risque, c'est qu'on ne voit plus que ça, d'autant plus que quelquefois les médias se plaisent à ne montrer que ça, il faut malgré tout dire que l'Église est sainte. Et qu'elle est sainte de la sainteté du Christ qui l'a transmis à son épouse, mais qu'elle est sainte aussi de tous ceux parmi ses membres qui sont en état de grâce. Elle est sainte de tous ses enfants baptisés qui ne seront jamais aussi saints qu'entre le moment de leur baptême et le moment où ils commenceront à commettre des péchés consciemment. Ça, c'est aussi la sainteté de l'Église. Je passe. Dieu a voulu avoir besoin des hommes. C'est extraordinaire de se dire qu'il a couru ce risque extraordinaire de mettre sa parole de vérité à notre disposition, en courant le risque qu'elle ne soit pas comprise, qu'elle soit déformée, qu'elle ne soit pas crue. Lisez l'évangile d'aujourd'hui, par exemple, les invités au festin, au repas, personne n'est venu. Il remet sa vie entre nos mains, quand Jésus meurt sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », donc il la remet au Père, mais la veille, le jeudi saint, instituant l'Eucharistie, c'est entre nos mains qu'il remet le pain. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc il remet aussi son corps, c'est-à-dire sa personne, entre nos mains en nous, à nous, courant le risque que nous puissions, bien sûr, nous sanctifier en communion, mais courant le risque que ce pain soit jeté aux chiens, comme dit l'Écriture. Voilà. Et c'est entre nos mains qu'il laisse ce dépôt, saint Paul dit, ce dépôt, nous l'avons, nous le recevons dans des vases d'argile. Et chacun d'entre nous a conscience de son péché, chacun d'entre nous a conscience qu'il salit l'Église. Et pourtant, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Petit dé, l'Église est notre mère. Malgré toutes ses faiblesses, l'Église a le grand mérite de transmettre aux hommes la plénitude de la foi et d'engendrer à Dieu de nouveaux enfants. S'il n'y avait que la misère des hommes depuis 2000 ans, ça fait belle lurette qu'on ne parlerait plus de l'Église. Donc malgré tout, malgré toutes les tempêtes, voilà, malgré le péché, les péchés quelquefois graves de certains de ses membres, et malgré le nôtre, elle continue à assumer sa mission fidèlement. Je vous lis ce petit témoignage d'un auteur, l'écrivain Françoise Mallet-Joris. L'Église ne m'a jamais posé de questions. Puisque j'adhérais à Dieu, j'adhérais à l'Église. Refuser d'entrer dans l'Église parce qu'elle n'est pas parfaite équivaut pour moi à refuser la vie. Que l'Église puisse être un écran entre les hommes et Dieu me paraît inconcevable. L'homme n'est pas parfait. Pourquoi l'Église le serait-elle? Je trouve si merveilleux de penser qu'elle a su, à travers les siècles, à travers tant d'hérésies et d'imperfections, nous préserver ce dogme essentiel de l'incarnation qui, pour moi, est tout. Et c'est vrai non seulement de l'incarnation, mais du reste. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que, même 2000 ans après, si je reçois ce que me donne l'Église, c'est bien ce que le Christ a voulu me donner que je reçois. Et en recevant ce que le Christ veut me donner, c'est bien ce que le Père veut nous donner. Donc il faut que nous soyons certains qu'il n'y a pas de déperdition au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source. Troisièmement, donc toujours dans le grand 1, écriture, magistère et tradition. Alors je vais essayer simplement de donner quelques petits mots, de voir comment les trois s'articulent, parce que c'est aussi le fonctionnement de l'Église. La transmission de l'Évangile se fait de deux manières. D'abord oralement, puisque les apôtres disent, répètent ce qu'ils ont entendu. Le jour de la Pentecôte, ils poussent les portes et ils commencent à donner des premiers discours. Et pendant des mois et des années, il y a eu une vie de l'Église avant qu'il y ait un Nouveau Testament. Elle s'est organisée, comment elle allait prier, d'abord dans les synagogues, puis ensuite, comme ça ne marche plus dans les synagogues, soit parce que les Juifs ne veulent plus de nous, soit parce que les synagogues deviennent trop petites dans nos petites maisons, et on organise la liturgie. Comment va-t-on faire? Comment ça s'enracine dans la prière juive? Voilà. Donc il y a une vie de l'Église et une transmission orale. Puis, parce qu'on s'étend, parce que les apôtres vieillissent, parce que saint Paul quitte une communauté pour aller en voir une autre, mais qu'il a besoin de soutenir celle qu'il vient de quitter, il va y avoir des textes écrits. Soit les lettres de saint Paul qu'il adresse à des communautés, soit le souci de quelques personnes de mettre par écrit, pour qu'on en ait une trace, quand les témoins auront disparu, de ce que Jésus a dit et a fait. Et donc par écrit, par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Puis, on s'organise, dans chaque communauté, on va mettre un responsable de communauté, à qui on va imposer les mains et qui deviendra l'évêque. Qui fait ça? Les 12 premiers qui sont partis, c'est-à-dire les apôtres. Et on ne nomme évêque que quelqu'un qui a été en contact avec les apôtres. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, il y a ce qu'on appelle la succession apostolique, c'est-à-dire que Jésus a choisi les 12 qui ont institué des évêques, et cette chaîne ne s'est jamais interrompue. Et c'est une grande question qui se pose, par exemple, par rapport à certaines communautés protestantes. Est-ce que pour certains, donc il faudrait voir par exemple chez les anglicans, Henri VIII, qui avait des évêques quand il a fondé l'anglicanisme, est-ce qu'il restait des évêques, et je crois que la réponse est oui, qui étaient catholiques, et une transmission qui peut encore se faire chez eux, ou est-ce qu'il y a plus, il y a rupture de transmission de la succession apostolique? Et donc ça change le statut de la communauté chrétienne si on est encore dans la succession apostolique, même sans être catholique, ou si on n'est plus. Cette transmission vivante, accomplie dans l'Esprit Saint, est appelée la tradition. Bien. Donc une église qui s'organise, la tradition. Tradition apostolique parce que elle a comme point de départ les apôtres. C'est la tradition apostolique qui vérifie parmi tous, donc dans les 1er, 2e siècle, parmi tous les écrits chrétiens de l'époque du Christ, du 1er siècle, lesquels vont faire partie de ce qui seront de ces écrits officiellement reconnus comme inspirés par l'Esprit Saint et lesquels n'en font pas partie. Donc vous avez tout le Nouveau Testament et vous avez d'autres écrits chrétiens qui peuvent être très intéressants, mais que la tradition apostolique n'a pas reconnu comme étant inspiré. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pleins d'erreurs, mais ça veut dire qu'ils sont d'un autre niveau. Ça, c'est la tradition apostolique qui l'a définie. La Sainte Écriture elle-même est reconnue comme étant inspirée par l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on doit dire de chaque livre de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'il a deux auteurs. Un auteur humain qui a écrit un texte avec son génie propre et qu'il en ait conscience ou qu'il n'en ait pas conscience, lui-même inspiré par l'Esprit Saint, qui a fait que son texte est garanti d'erreur sur Dieu. Voilà. L'inspiration des Écritures nous garantit des erreurs sur Dieu. Saint-Pierre, vous savez cette chose essentielle, aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une intuition personnelle. En effet, ce n'est jamais la volonté d'un homme qui a porté une prophétie, c'est porté par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. La tradition s'articule avec l'Écriture. Nous ne sommes pas une religion du livre, mais une religion de la parole. Il n'empêche qu'un certain nombre de paroles de Jésus ont été consignées dans un livre qui nous sert de base et qui nourrit la vie de l'Église, évidemment. Je ne peux pas connaître Dieu et connaître le Christ sans connaître l'Écriture. Saint Jérôme dit « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ lui-même. » Mais au cœur de l'Écriture, il y a le Christ. Quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga » dans un autre domaine, on peut l'appliquer à ce domaine-là aussi. Tout l'Ancien Testament est un éclairage vers le Christ, prépare le Christ, et le Christ est un éclairage de tout l'Ancien Testament. Donc le sommet de toute l'Écriture, c'est évidemment la personne même du Christ. La première génération de chrétiens, je vous l'ai dit, n'avait pas encore de Nouveau Testament et elle a commencé à vivre et à s'organiser, ce qu'on appelle la tradition. La tradition n'inventera aucun dogme que n'aurait pas donné Jésus. Elle ne fera que développer ce qui est en germe dans l'Écriture, mais tout est en germe dans l'Écriture. Quatre petits dés, donc vous avez la tradition, lien entre tradition et écriture, l'écriture, petit dé, le magistère, qui est chargé d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise. Ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité. C'est ce qui nous différencie, par exemple, des églises ou des communautés protestantes qui, pour elles, n'ont que l'écriture. Donc, scriptura sola. Et vous avez la Bible. Et ce qui explique cet émiettement, quelquefois, des communautés protestantes, c'est que moi, je vais lire la Bible, je vais la comprendre d'une certaine façon, je vais vous proposer une interprétation de la Bible qui n'est pas tout à fait la même que celle de mon voisin. Et si vous êtes d'accord avec moi, et bien on va former un groupe qui sera, auquel on va donner un nom, qui sera d'accord avec l'interprétation que moi je fais de la Bible. Et cet émiettement, il est dû au fait qu'il n'y ait pas de magistère qui permet de vérifier quelle est la légitime interprétation ou pas. Donc, c'est pas une police de la pensée, c'est une sécurité pour rester unis autour de ce que Jésus a voulu dire, que nous, on comprend, éclairé par l'Esprit Saint et parce qu'on est ensemble. Le magistère, ce n'est pas le caprice d'une personne non plus. C'est le pape, les évêques unis au pape. Ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale, elle est définie dans des cas très précis qui sont rarissimes. Ce qui ne veut pas dire que chaque fois que le pape parle, il dit des bêtises, mais chaque fois qu'il parle, il n'engage pas son infaillibilité. Voilà, donc dans l'organisation de cette église, de l'Église, tel que le Christ a voulu, il y a ces éléments qui qui s'éclairent les uns les autres. Grand 2, le contenu de la foi. Pourquoi je me suis attardé sur ce grand 1 ? Pour que nous ayons conscience que ce que l'Église nous transmet de la part du Christ est crédible. C'est pas farfelu. Les pharisiens le reconnaissent. Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Voilà, le père de Mentière, le curé de l'Assomption. On peut bien noircir des pages acrimonieuses contre l'Église, on n'enlèvera pas ceci. C'est par elle que j'ai reçu intact l'évangile du Christ, sans déperdition de substance. Je rends grâce à ce grand vase illustre de n'être pas pour eux, disait Mauriac. Voilà. J'ai la garantie, aujourd'hui, 2000 ans après, d'être en relation avec Jésus-Christ. Parce que ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ. Saint Ambroise. Nous ne devons rien enlever ni rien ajouter, tel est en effet le symbole que tient l'Église romaine, là où a siégé le premier des apôtres et là où a été transmise la pensée commune. Saint Augustin, Dieu nous aidera à dire des choses vraies du moment que nous ne disons pas des choses tirées de nous-mêmes. Car si ce que nous disons est tiré de nous-mêmes, nous serons pasteurs pour nous-mêmes et non pour les brebis. Au contraire, si ce que nous disons vient de lui, c'est lui qui est notre pasteur, quel que soit l'intermédiaire. Grand 2, premièrement, je dirais que la fragilité de ceux que Jésus a choisis, c'est-à-dire les apôtres, paradoxalement peut-être, témoigne de la validité du contenu. Je m'explique. Si on demandait aujourd'hui à des chercheurs de tête, des chasseurs de tête, de composer le cabinet autour de Jésus, on peut être sûr qu'ils choisiraient aucun des 12 apôtres. Des gens bien plus brillants. C'est étonnant de voir comment, après une nuit de prière, Jésus choisit parmi les 12 un traître, un qui le reniera, des orgueilleux, des frustres, des prétentieux, des lents à croire, voilà. Le lot commun de la patte humaine. Ce qui nous permet, nous, d'arriver en n'ayant aucun complexe, parce qu'en fait, on est exactement comme les apôtres. Ce qui est une garantie, c'est que effectivement, ayant choisi des gens qui ne sont pas plus brillants que les autres, le message soit passé quand même. Qu'ayant choisi des lâches qui se sont tous débinés à l'heure de la passion, quelques jours après, les mêmes étaient forts, non pas de leur force à eux, puisqu'ils n'en ont pas beaucoup, pour annoncer le message alors que les risques sont les mêmes. Saint Jean Chrysostome, dans une homélie, comment 12 hommes, des ignorants, ont-ils pu avoir l'idée d'une pareille entreprise, eux qui vivaient auprès des lacs et des fleuves et dans le désert, eux qui n'avaient jamais fréquenté les villes et leurs assemblées, comment ont-ils pu songer à se mobiliser contre la terre entière? Ils étaient craintifs et sans courage. Celui qui a écrit sur eux le montre bien, lui qui n'a voulu ni excuser ni cacher leurs défauts. Voilà. Pour moi, c'est un signe aussi de l'authenticité des évangiles. C'est là une preuve très forte de vérité. Que dit-il donc à leur sujet? Quand le Christ fut arrêté après avoir fait d'innombrables miracles, la plupart s'enfuirent, et celui qui était leur chef de file ne resta que pour le renier. Ces hommes étaient incapables de soutenir l'assaut des Juifs quand le Christ était vivant, et lorsqu'il fut mort et enseveli, d'où croyez-vous qu'il se serait mobilisé contre la terre entière? Est-ce qu'il n'aurait pas dû se dire « Qu'est-ce que cela ? Il n'a pas été capable de se sauver lui-même et il nous protégerait. Quand il était vivant, il n'a pas pu se défendre et maintenant qu'il est mort, il nous tendrait la main. Quand il était vivant, il n'a pu se soumettre aucune nation et nous allons convaincre la terre entière en proclamant son nom. Comment ne serait-il pas déraisonnable, non pas même de le faire, mais seulement d'y penser ? La chose est donc évidente, s'il ne l'avait pas vu ressusciter et s'il n'avait pas eu la preuve de sa toute-puissance, il n'aurait pas pris un risque pareil. Deuxièmement, le contenu. Tout de suite après la Pentecôte, ça tient en quelques phrases. Celui qui est mort, il est ressuscité. Alors c'est une pierre d'achoppement, puisqu'on sait que quand Saint Paul arrive à Athènes et qu'il dit « Je vais vous parler du Christ ressuscité », là-dessus on t'écoutera une autre fois. Mais Saint Paul ne va pas changer de discours. Moi j'ai une chose à vous dire, c'est qu'il est ressuscité. Donc je ne peux pas faire, je ne vais pas vous dire, le cœur c'est il est ressuscité. Il y avait ce que les anciens appelaient l'évangile dans une noix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petites mini crèches qu'on essaye de faire tenir dans une coque de noix. Eh bien, l'évangile dans une noix. Si vous devez résumer tout le message de Jésus, voilà. Alors, les anciens avaient retenu cette phrase. Je la retrouve. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, pour, non pas pour juger le monde, mais pour que tous ceux qui croient par lui soient sauvés. Voilà. L'incarnation, la rédemption par la mort, la foi, le salut, la vie éternelle. Donc le message au départ, il est très, très bref, très synthétique. On a quand même cette garantie. Le soir de Pâques, Jésus dit à Thomas, « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » C'est le régime normal de l'Église depuis l'ascension jusqu'à la fin des temps. Nous n'avons pas vu. Mais Saint Jean commence sa première lettre en disant « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. » Donc ce qui est transmis, c'est quand même ce qui a été vu, entendu, touché du Verbe de vie. Et il insiste. Je vous l'annonce pour que vous, en croyant, vous soyez en communion avec nous, comme nous on est en communion avec Jésus, qui est en communion avec le Père. Donc, en croyant, vous êtes en communion avec le Père. Et peu à peu, parce qu'il faut qu'on réfléchisse sur notre manière de vivre, parce qu'il faut qu'on établisse une liturgie qui va se développer, parce qu'on est confronté à d'autres cultures, il faut inévitablement qu'on réfléchisse sur notre foi. Et donc l'Église va réfléchir sur les propres problèmes, sur les questions qui lui sont posées, et va s'établir un développement de la foi. Et puis certains points vont être remis gravement en cause. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus c'est quelqu'un de très grand, très puissant, mais on ne peut pas dire qu'il soit fils de Dieu. Ça c'est l'arianisme. Et on va essayer de justifier l'arianisme, certains. Et donc l'Église va se rassembler, va convoquer un concile pour dire ça c'est manifestement une erreur, mais il ne suffit pas de dire que c'est une erreur, comment on va montrer que c'est une erreur et comment on va trouver un moyen encore plus grand d'exprimer notre foi. Et donc, on va être amené à établir des textes, des professions de foi qui seront l'expression officielle pour autant que nos mots soient aptes à rendre compte de la réalité qu'est Dieu. En tout cas, ça ne rendra pas compte de toute la réalité, mais en disant ce mot-là, nous ne sommes pas dans l'erreur. Et donc, il y a une formulation, parce que si on commence à dire « Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu », alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me sauve parce qu'il est fils de Dieu. Donc, si je commence à dire ça, c'est tout le reste qui s'en va. Donc, l'importance de tout tenir ensemble, c'est, paraît-il, une définition du catholicisme. Chez le protestant, c'est « ou ça ». Et chez le catholique, c'est « et ça ». Et on essaye de tout tenir ensemble. Voilà, donc il y a des conciles qui se rassemblent, et puis des professions de foi, dont les deux plus connus, le symbole des apôtres ou le credo de Nicée-Constantinople, qu'on dit le dimanche. Il y en a une plus récente, la plus récente, c'est une profession de foi du peuple de Dieu que Paul VI a composée à la fin de l'année de la foi, donc en 1968. C'est un texte, alors pour le coup, beaucoup plus développé, puisque en quelques années, on a dit tout et n'importe quoi dans les années qui ont suivi le concile. Mais alors c'est parti dans tous les sens. Donc on perdait nos points de repère, et Paul VI a dit il est urgent de redonner un point de repère, et il a prié, et le fruit de cette année de la foi, ça a été sa proclamation solennelle, alors vraiment comme un acte, je ne dis pas absolument infaillible, mais vraiment dans lequel il engageait son autorité, comme successeur de Pierre, comme devant affermir ses frères dans la foi, il a donné le credo du peuple de Dieu, qui reprend et tous les points qui étaient discutés dans les années 60-70. Voilà, c'est un très très beau texte simple. Je saute. Grand 3, ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Donc on a parlé de l'émetteur, du message qui était transmis, même si c'est très très rapide, pardon. Grand 3, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, c'est-à-dire le récepteur. On aura beau avoir, j'allais dire, le meilleur produit. Excusez-moi de comparer l'évangile à un produit, mais c'est une image pour nous faire comprendre. Je peux avoir le meilleur produit, si personne ne reconnaît qu'il est bon, si personne n'en veut, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur produit. Donc nous avons le Christ qui est venu transmettre. Nous avons vu que par le moyen qu'il avait choisi de transmettre, on pouvait être garanti, être sûr que ce qu'il avait dit était garanti. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Et on voit bien, par exemple, que Jésus a beau parler avec autorité, tout le monde n'adhère pas au message de Jésus. Prenez par exemple au chapitre 6 de Saint Jean, le grand discours sur le pain de vie. C'est une foule qui est bienveillante, qui avait envisagé de venir prendre Jésus pour le faire roi, dit l'Évangile, parce qu'elle avait mangé à sa faim gratuitement. Il va tenir un grand discours, et à la fin, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tout le monde a entendu le même discours, et nous avons des réactions diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'il y a un problème quand même chez celui qui écoute. Premièrement, Dieu seul voit le fond des cœurs. Je crois que je vous ai dit en commençant le premier entretien que pour moi la foi était peut-être l'un des sujets les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de réponses de foi qu'il y a de personnes en face de moi. Et qu'il y a autant de chemins personnels qu'il y a de personnes. Et qu'un chemin personnel, c'est toute une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui avec des éléments qui interviennent pour nourrir, pour affaiblir, pour mettre en doute, pour faire grandir ma foi. Donc quand je parle avec quelqu'un aujourd'hui, est-ce que c'est le même que celui avec lequel je parlais il y a 10 ans? Et Dieu seul est capable, parce qu'il connaît le cœur de chacun, de savoir exactement ce qu'il en est dans le cœur de chacun. quel est son héritage familial, comment ça a été transmis, est-ce que ça a été transmis intelligemment, est-ce que ça n'a pas été transmis intelligemment, quelles influences il a suivies, est-ce qu'on l'a envoyé au catéchisme, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé au catéchisme. Ça dépend de tas de données. Et vous avez dans une famille qui a 10 enfants, les mêmes parents qui ont vécu la même foi, qui ont montré le même exemple aux 10 enfants, qui ont tenu le même discours, qui ont envoyé les mêmes enfants, enfin les enfants dans les mêmes écoles, qui ont eu le même caté, et les 10 enfants qui partent dans des directions différentes. Rien n'est une garantie. Et vous avez des parents alors qui sont plus très convaincus, des parents qui ne le sont pas, donc qui retransmettent quelque chose qui est plus culturel que de l'ordre de la foi. Et puis vous avez des parents qui sont très convaincus, qui ont fait cette expérience du Christ et qui peuvent, et ce qui essayent d'amener les enfants jusque à la porte, et Jésus va frapper à la porte, mais ce n'est pas les parents qui peuvent ouvrir la porte le cœur de leurs enfants. Donc je peux favoriser les conditions pour que mes enfants fassent l'expérience vivante du Christ dans leur vie, qui changera tout, mais je ne peux pas le faire à leur place. Et c'est déchirant pour des parents. Voilà, je n'ai pas toujours été parfait, mais le Christ, c'est le cœur de ma vie. Il n'y a pas d'autre issue, c'est pas... Et voilà, mes enfants, paf, ils n'en ont rien à faire. Donc, il y a, premièrement, Dieu seul voit ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Un petit passage de Jean-Paul II dans son dialogue avec André Frossard. Pour moi, le problème fondamental n'a pas été celui d'une conversion de l'incroyance à la foi, mais plutôt celui d'un passage de la foi héritée, reçue et plus affective qu'intellectuelle, à une foi consciente et de pleine maturité, intellectuellement approfondie après un choix personnel. Ce passage lent et graduel par différentes voies, cette traversée que je ne dirigeais que jusqu'à un certain point, sur la carte semblait menée de l'extérieur par la succession des événements sans doute, mais elle l'était aussi à un niveau de ma vie intérieure plus profond que mes réflexions, choix, réponses ou intellection. J'ai conscience que dans ce long processus qui dure encore, je ne suis pas seul. Voilà. Une des difficultés aujourd'hui, c'est que peut-être on a transmis des choses. Quand les enfants vont au caté, on leur transmet des connaissances et à un niveau d'enfant. Et dans un monde où on va développer les connaissances dans des tas de domaines, on va avoir une foi atrophiée. Parce que notre foi va rester une foi d'enfant. Et je ne méprise pas la foi des enfants, c'est bon pour les enfants. Mais quand je suis un adulte, ma foi doit être une foi d'adulte. Je suis très cultivé, j'ai lu des tas de livres, mais j'en suis resté à ce qu'on me disait au caté d'enfance, que j'en ai retenu. Voilà, donc ma foi n'est pas nourrie. Et dès qu'il y a un petit coup de vent, dès que j'entends un truc à la radio, paf, elle disparaît. Donc petit b, la foi se vit en église. J'appartiens à une communauté dont la liturgie ces jours-ci nous a rappelé qu'une part est déjà au ciel, c'est l'Église triomphante. Une part est une part souffrante, c'est les âmes du purgatoire, et une part est militante, c'est nous. Nous sommes membres d'une famille qui nous porte lorsque nous sommes faibles, qui projette sa lumière lorsque nous sommes dans les ténèbres, qui nous soigne lorsque nous sommes malades, qui nous soutient lorsque le chemin est aride. Je ne sais plus quel auteur dit, à certains moments, les autres me portaient. Quand moi j'étais hésitant, les autres me portaient. Par exemple, j'ai reçu une éducation chrétienne, aujourd'hui je ne sais plus très bien où j'en suis de ma vie. Est-ce que je vais à la messe dimanche prochain ou est-ce que j'y vais pas? Comme je ne sais pas très bien, ça peut être hypocrite que j'aille à la messe si je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais au contraire, je peux faire cet acte de confiance. Ça fait 2000 ans quand même que des gens, parmi lesquels il y a des gens intelligents aussi, ont vécu en essayant d'être fidèles. Et ben moi, je traverserai ma crise en rentrant dans un moule qui me porte et qui me fera traverser la crise. Excusez-moi, je passe vite. Deuxièmement, la foi est un don de Dieu. Alors, petit a, des cœurs et des esprits malades. Quand Jésus enseigne, vous prenez chez saint Matthieu par exemple tous les discours en parabole, il donne la parabole à tout le monde. Et les gens comprennent ou ne comprennent pas. Puis ensuite, il prend ses apôtres et il leur explique les paraboles. En leur disant, vous, vous expliquerez. Vous êtes heureux d'entendre ce que vous entendez et que les autres n'ont pas entendu. Et pourquoi je vous le dis à vous? Parce que vous, vous expliquerez. Mais moi, je ne peux pas expliquer à toute la foule en même temps parce que celui qui est là-bas au fond, qui ne posera pas de questions, je ne sais pas s'il a compris ou pas. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que vous, vous ayez compris. Il y a une transmission à deux vitesses. Et il n'est pas sûr que les apôtres aient toujours bien compris. Donc, comment chacun est disposé à ouvrir son cœur et son intelligence quand il entend quelqu'un parler de Dieu? Et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait certains qui poussent beaucoup leur formation parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont faim, et qu'ils soient très formés, pour ensuite redonner à ceux qu'ils vont rencontrer là où ils sont. Pape Paul VI a expliqué un jour que l'existence des incroyants nous renvoyait nous-mêmes à notre propre foi. La foi est offerte à tous, mais tous ne l'accueillent pas. Cependant, compte tenu de cette possibilité attristante que la foi soit rejetée, nous pouvons franchement porter un jugement de valeur sur la foi. À quoi sert la foi? Que nous donne-t-elle? Rappelez-vous, frères et fils très chers, la réponse que chacun de nous, en recevant le baptême, a donnée au ministre qui nous demandait « Que vous donne la foi ?» La vie éternelle, avons-nous répondu. Si cette réponse est vraie, et elle l'est, quel bien plus désirable et plus grand peut être promis par la foi? Bon, il y a des raisons extérieures. Donc, pourquoi Dieu donne la foi à tout le monde? Il est prêt à la donner à tout le monde, mais selon les circonstances, la vie, les événements de la vie de chacun, je reçois ou je ne reçois pas. Je reçois bien, je reçois pas bien. Il faut souhaiter qu'il y ait d'autres occasions. Le jeune homme riche, voilà, qui a dit non à Jésus ce jour-là, est-il revenu? Tout le monde l'espère dès qu'on commente l'évangile, mais voilà, l'évangile n'en dit rien. Mais il y a d'autres chances qui nous sont laissées. Il peut y avoir une part de moi-même, je peux être responsable du fait que je refuse de croire. Mais je peux aussi ne pas être responsable du fait que je refuse de croire parce que celui qu'on m'a présenté n'est pas le vrai Dieu. Parce que celui qui me le présente est un contre-témoignage. Je vous donne un exemple que j'ai tiré, je vous en avais peut-être parlé, la controverse de Valladolid. Alors c'est un livre dont on a tiré un film. L'idée c'est, est-ce que les Indiens d'Amérique du Sud ont les mêmes droits que les autres? Est-ce que ce sont des personnes humaines comme les autres? Le colon qui parle, ça l'arrangerait qu'on puisse dire non, parce que ça lui permet de continuer à les exploiter. Et les Indiens sont défendus par le dominicain Bartolomé de las Casas. Dialogue. Vous avez souvent dit qu'ils sont capables de sentiments chrétiens. Vous le maintenez? Assurément. Depuis le début, ils accueillent favorablement notre foi. Souvent, elle leur plaît. Ils la comprennent. Mais quelle image leur en donnons-nous? Que peuvent-ils penser d'un Dieu que les chrétiens qui les exterminent, tiennent pour juste et bon? Savez-vous ce qu'un homme m'a confié un jour? Dites-nous. Il m'avoue, oui, je me sens déjà un peu chrétien parce que je sais déjà mentir un peu. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Si donc ces gens-là refusent d'adhérer à la foi, c'est pas un refus de Dieu. Vous savez, c'est dans ce même, je n'ai pas retrouvé la référence exacte dans le livre, mais dans le film. Est-ce que vous croyez au ciel? Oui. Est-ce que vous avez envie d'être dans le paradis? Ça dépend. Ça dépend quoi? Vous y serez, vous, dans le paradis? Ben évidemment qu'on y sera. Alors, je n'ai pas envie d'y aller. Voilà. Troisièmement, peut-on perdre la foi? Vous connaissez la réponse de Bernanos. Nous ne perdons pas la foi comme nous perdons notre mouchoir, mais elle cesse d'informer notre vie. La foi, c'est Dieu, le Christ qui éclaire ma vie, mes décisions, qui me nourrit, qui me stimule, qui me fait aller de l'avant. Et si je crois qu'il existe, mais qu'il ne m'amène plus à agir en fonction de lui, alors il n'informe plus ma vie. Je crois intellectuellement en son existence, mais c'est plus lui qui me fait vivre. Je peux la perdre pour des mauvaises influences. On a déjà parlé de Charles de Foucault. Les lectures, c'est très souvent qu'on perd la foi par des mauvaises lectures et par une mauvaise vie désordonnée. J'avais conscience, si je voulais être cohérent, soit je change de vie, soit j'abandonne l'Évangile. J'ai abandonné l'Évangile. Jean-Paul Sartre. Alors, j'ai relu quelques pages des mots, c'est bien écrit. Son père est mort rapidement, sa mère est catholique, son grand-père paternel est protestant. Mais protestant virulent anti-catho. Sa mère tient à l'envoyer au cathé et le grand-père est d'accord parce qu'il connaît Monsieur l'abbé qui fait le cathé. Chaque jeudi où Jean-Paul, le petit Jean-Paul, rentre du cathé, catholique, son grand-père le fait venir, vérifie tout ce qu'il a entendu et dégomme tout ce qu'il a entendu et se moque de tout ce qu'il a entendu. Et sa mère fait une petite remarque à son père et finalement sourit des moqueries du grand-père. Et voilà ce qu'il dit. Je fus conduit à l'incroyance, non par le conflit des dogmes, mais par l'indifférence de mes grands-parents. Et alors, il y a enfin voilà. Qu'est-ce qui peut m'amener à perdre la foi? La honte d'être chrétien. Peggy, je vous le lis pas, mais il y avait un texte de Peggy sur ceux qui ont honte de paraître devant Dieu, de défendre, qui ont peur qu'on se moque d'eux, qui ont peur. Voilà. Aujourd'hui, c'est très facile. Comme on a caricaturé un peu la position de l'Église sur certains points, si moi je dis, ben je suis d'accord avec ce que dit l'Église, ça veut dire que je deviens risible. Puisqu'on se moque de cette position-là, pour oser dire, ben moi je suis d'accord avec ça, voilà. Donc je commence par ne plus être tout à fait d'accord, ne pas oser le dire, puis finalement je ne serai plus d'accord et finalement je vais m'éloigner. Petit C qui peuvent nous faire perdre la foi, des germes empoisonnés qu'on laisse se développer en nous, à l'intérieur de nous, qui finiront par miner notre foi. Il y a un rapport très évident entre une foi vivante et mon comportement moral. Je vous lis ce que dit un prêtre, le père Gratry, qui a écrit au début du XXe siècle. Qu'est-ce donc que la foi? Qu'est-ce donc que cette foi qui sauve? Mon Dieu, donnez-moi la foi. Mon Dieu, augmentez en moi la foi. Je sais un peu par expérience ce qu'est la foi et son absence, ses défaillances et ses accroissements. Je sais très bien que j'avais la foi dans mon enfance quand j'étais pur. Je sais aussi que je l'ai perdue sous l'influence de la volonté de la chair et dans cet âge inepte, aveugle, honteux, impertinent, où les enfants se corrompent entre eux et conspirent pour rejeter tout joug et perdre la foi et la vertu. Je sais que la foi m'est revenue quand j'ai voulu vaincre la chair et sa folie et son aveuglement. Et je sais que je ne l'ai pu vaincre que quand la foi mes revenus, non pardon, que les hommes de ce temps s'examinent et disent si cette histoire n'est pas la leur, en tout ou en moitié. Et pourquoi maintenant ma foi, quoique depuis longtemps enracinée, a-t-elle des défaillances et des accroissements? Quand est-ce qu'elle paraît croître ou décroître? Quand je me reprends à m'aimer moi-même plus que Dieu et mes frères. Quand la chair se révolte et n'est pas matée aussitôt, la foi paraît décroître. Elle paraît croître et elle croit en effet quand je suis maître chez moi et quand mon cœur, devenu libre, recommence à s'ouvrir pour Dieu. Ces choses se tiennent. Bon. Je voulais juste, pour terminer, et après je laisse un petit peu pour poser des questions, les témoins, une catégorie de témoins de la foi, ce sont les martyrs. Je vous donnerai une catégorie de témoins de l'espérance et de la charité. Le témoin de la foi, il n'y a pas que, mais une catégorie très signifiante, ce sont les martyrs, qui misent tout sur la parole de Dieu, y compris la perte de leur vie corporelle, de leur vie terrestre. Celui qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Une fois que j'ai perdu la vie, ce n'est pas perdre une partie et avoir la chance d'en refaire une autre. Si je perds la vie, je vois. Eh bien, le témoignage de la foi des martyrs, notre victoire sur le monde, c'est notre foi, dit saint Jean. Bon, pardon, ça a été trop long. En fait, il faudrait que je commence par la fin, parce que je prends toujours trop de temps pour parler du début, puis après, j'arrive plus à arriver à la fin. Madame. Alors, on considérera que c'est a priori historique à partir d'Abraham. Ça ne veut pas dire que tous les détails soient historiques. Par exemple, Jonas, on ne sait pas s'il y a eu exactement, est-ce que l'histoire de Jonas, c'est sans doute plus un poème. Mais sinon, on considère que c'est historique à partir d'Abraham.
Parce qu'il y a des traces.
Ah ben Abraham, oui, il y a des traces parce que, oui. Les prophètes, voilà, tout ça, c'est des choses... On sait que les Juifs sont partis en exil à Babylone, on sait qu'ils ont été accompagnés, on a la liste des rois, ça, c'est, y a tout ça, c'est historique. D'autres questions ? Ça, s'il n'y en a pas, c'est... Oui, madame.
C'était Paul VI.
Paul VI, en 68. C'est un texte que vous trouvez encore au moins chez Teki, parce que c'est eux, enfin je sais. Puis après, c'était un grand moment parce que quand on n'avait plus de point de repère, que ça partait dans tous les sens, il a recadré les affaires. Alors, on peut se poser la question, pourquoi par exemple dans les credos qu'on dit dimanche, il y a des points dont on ne parle pas? Parce que le credo a été composé surtout en réponse à des contradictions ou à des erreurs. Donc on a parlé de ce qui était remis en cause à l'époque. On ne parle pas d'Eucharistie parce que personne n'a remis en cause l'Eucharistie à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas. Ça ne veut pas dire que ça a été rajouté après. Mais dans le texte de Paul VI, alors tout ça, on parle de tout ça puisque tout a été remis en cause. Alors je ne l'ai pas là, mais si j'y pense, je vous l'apporte la prochaine fois. Oui, madame.
C'est que la ce qui est important pour moi, c'est que c'est au compte-goutte la foi. On ne peut pas en prendre une grosse dose en une minute, on ne peut pas convertir quelqu'un en cinq minutes. Il faut compter une toute petite touche et puis on attend six mois qu'il revienne.
Oui, madame, sauf que ça, c'est peut-être votre histoire à vous, mais on ne peut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, parce que, par exemple, Frossard a reçu un coup de massue en entrant dans une église. Claudel à Notre-Dame. Saint Paul, alors il a la foi juive. Mais Jésus, il ne veut pas en entendre parler, puisqu'il rend service à l'humanité en allant chercher les chrétiens pour les emprisonner. Et il tombe de son cheval, aveugle, voilà, très symbolique, et puis... Bref, mais la réalité, dans le fait qu'il soit tombé, alors... je ne mourrai pas martyr pour défendre le cheval, madame. Mais, donc, il y a quand même des... Non, mais il y a plus, vous avez plus de gens qui cheminent au goutte à goutte que de Saint Paul. Oui, ça c'est vrai.
Non, on peut être découragé en disant, moi,
non.
J'ai tout ça à faire, j'y arrive, j'ai un millimètre, il faut attendre.
Alors, en fait, madame, si on ne compare pas, on n'est pas découragé. Et je pense que beaucoup d'inconvénients viennent du fait qu'on se compare aux autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est moi d'accueillir le Christ aujourd'hui dans ma vie, autant que je le peux aujourd'hui, autant qu'il m'est donné de le faire. Si les autres peuvent plus, je me réjouis pour eux. Mais que, pourvu que moi, je le fasse autant que je peux. Mais il ne faut pas comparer.
Si, mais moi, j'ai tous les ennemis de la foi autour de moi. Écoutez, une sœur, un franc-maçon, toute ma famille est contre la foi. Et alors, chaque fois, il faut que la scène à Paris. Galilée n'a pas passé un jour en prison, les croisades étaient des guerres défensives, tout ça, ils ne le savent pas.
Oui, mais en même temps, Vous savez, moi, il m'est arrivé d'être devant, face à des gens qui m'objectent quelque chose et je n'ai pas su répondre. Et j'avais conscience, en ne sachant pas répondre, que c'est mon intelligence qui était déficiente, mais que ce n'était pas la foi.
Mais c'est bien de se meubler un peu.
Ah ben bien sûr. Non, mais bien sûr qu'il faut s'armer.
Et le sacrifice d'Abraham, c'est tellement vilain, un sacrifice humain, et il y en a des millions d'avortements qui sont aussi des sacrifices humains.
Oui, à la différence.
C'est très fort.
Oui, madame, à la différence près que Dieu a envoyé l'ange pour qu'il arrête le bras d'Abraham afin qu'il ne sacrifie pas son fils. C'est quand même une différence de taille.
Oui, mais on ne voit pas beaucoup le sacrifice d'Abraham par les abords des partisans de l'avortement. Me reproche la cruauté du sacrifice d'Abraham. Comme ça, il a pincé et puis.
Oui, mais vous savez, peut-être je vous l'avais dit aussi, Mgr Lustiger rencontrant des jeunes à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou il y a très longtemps, une question leur lui a été posée, est-ce que vous avez déjà converti quelqu'un ? Réponse immédiate, moi non, l'Esprit-Saint oui. Donc l'Esprit-Saint se sert de nous. Il se sert de votre attitude patiente, joyeuse, du témoignage que vous donnez, de votre bonté pour toucher le cœur des gens que votre parole n'aura pas touché. Je ne sais plus quel est le martyr qui devant son juge dit « Ma parole ne t'a pas converti, mon sang te convertira. » Il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire, qu'on dise ce qu'on doit dire sans avoir peur, avec pas parce qu'on est meilleur, enfin, plus intelligent que les autres, parce qu'on a cette grâce, et le bon Dieu fera le reste.
Oui, ça je le sais, mais je veux me sentir pareil.
Alors il faut prier, madame, pour être parée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame. L'enseignement à deux vitesses. Non, non. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde ne marche pas au même rythme. Et qu'il est bien que certains aient très bien compris pour pouvoir expliquer plus tard à ceux qui font partie de la colonne, mais qui, vous savez, quand vous faites un pèlerinage à pied, il y a ceux qui marchent très vite, et puis il y a ceux qui traînent derrière. Mais le pèlerinage, c'est tout le monde. Et donc, Jésus a expliqué à des apôtres, sous-entendu, moi je ne serai plus là, mais il est important que vous ayez les explications, parce que vous serez chargé de transmettre à ceux qui n'ont pas compris. Oui, je n'ai pas compris, vous m'expliquez, madame. C'est ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaye de faire ensemble. C'est fini. Et bien, merci pour votre patience.
Merci.